Telle était en effet mon occupation principale, à laquelle s'adjoignait chaque matin le rôle de distributeur d'eau lorsque le camion-citerne arrivait de la base 1 et qu'il me fallait répartir aussi judicieusement que possible une quantité toujours insuffisante de liquide entre laboratoire, cuisine et lavabo. J'étais en somme contrôleur du feu et de l'eau, et cela dans la majesté du plein désert. De sorte que j'aurais pu, quand je me promenais de réservoir en réservoir, ayant en main le long bâton à section quadrangulaire qui me servait de jauge, m'imaginer sans grand effort être quelque chose comme un de ces thaumaturges manieurs d'orage ou faiseurs de pluie dont parlent les mythologies.
Je pense que c'est 43. À partir de là, nous avons été imprimés. C'est avec le numéro 10 que nous avons été pour la première fois imprimés. Et à partir de là, Michel a collaboré régulièrement. Comme il avait collaboré clandestinement, je ne me souviens plus quel était son pseudonyme, parce que je l'ai oublié, son pseudonyme dans l'honneur des poètes, mais enfin, toutes les publications clandestines où il a pu collaborer, il l'a fait volontiers. Et souvenez-vous, je ne sais pas dans quel, tout à fait à la fin de L'âge d'homme, il y a quelque chose, il y a une phrase, je vais la citer de mémoire, j'ai peur de pas bien la citer, mais je suis sûr du sens, où il se plaint de ne pas avoir quelque chose pourquoi il pourrait mourir. C'est à la fin de l'âge d'homme. Eh bien, je pense que à partir de 41, 42, je ne sais pas, ou 40 peut-être, en fait, j'en sais rien, mais à partir de la résistance, Michel a su qu'il y avait quelque chose pourquoi on pouvait mourir. Et c'était le plus, alors ça je dois dire, le plus naturel du monde. On ne se posait pas la question. Bon, les copains mouraient, oui, bah, ils mouraient, quoi. Mais on ne faisait pas de drapé. Hein. On a commencé à faire du drapé à partir du moment où la résistance est tout à fait politisée et où des partis politiques, en particulier, alors les staliniens, ont considéré qu'il fallait faire du battage sur les morts, quoi. Mais on mourait beaucoup plus simplement que ça. Hein. Et tous les documents que nous avons sont du type qui mourait simplement et qui mourait pas désespéré en général.
Aujourd'hui c'est dimanche, et qui plus est dimanche de Pâques. Pourtant je mentirais si je disais que je ne me sens pas bien. Depuis la guerre et la défaite, depuis surtout que l'occupation ennemie est devenue si lourde, le fait est que les choses ont pour moi beaucoup changé. Maintenant que la vie est bouchée, que l'avenir n'est qu'un trou noir et qu'on ne peut plus faire de projet autrement qu'en l'air, parce qu'il faut bien toujours qu'on se raconte quelque histoire, je cède moins volontiers à ces accès d'humeur, à ces crises de dépression. Le présent ne se dissolvant plus dans l'irréalité comme à l'époque où tout était mou et facile, je me tiens plus près de lui et suis à même de le goûter tant qu'il reste à peu près vivable. Rien de ce que je puis faire ne peut plus me paraître gratuit en ce temps où des choses si hideuses se passent qu'il est impossible à quiconque de ne pas s'en tenir pour peu ou prou responsable et de ne pas assigner à chacun de ses gestes une portée mesurable.
Pendant l'occupation, curieusement, alors ça c'est une chose qui est tout à fait étonnante, il redécouvre la tragédie classique. Il va donc au théâtre, il sort beaucoup, mais je comprends du reste enfin, qu'on ait eu envie de sortir au moment de l'occupation, enfin, je veux dire, de s'aérer l'esprit, évidemment. Il y avait une activité quand même culturelle, intellectuelle, intense pendant l'occupation. Et puis chose importante, c'est là qu'il rencontre, c'est à ce moment-là qu'il rencontre Sartre. C'est en 1942, je crois, au mois de décembre. Et là, ça va être le début d'une amitié enfin, qui ne s'est jamais démentie, elle non plus, jusqu'à la fin de Sartre et de Simone de Beauvoir.
Pendant la guerre, Léris, dans le fond, trouve qu'on devrait faire autre chose qu'écrire l'expérience intérieure. Hein. On devrait s'engager, il y a des choses trop importantes dans le monde pour qu'on se replie sur cette expérience intérieure. Et cette attitude est une attitude qui lui vient de Sartre. C'est un Sartre qui lui-même est très différent du Sartre qu'il avait lu avant la guerre, très différent du Sartre de la nausée. L'engagement est une chose nouvelle pour Sartre, alors qu'elle est plus ancienne pour Léris.
Dans le numéro qui a suivi cela, message 2 de de 1944, qui a pour titre Risques, travaux et modes, qui commence d'ailleurs par Le diable attrapé par la queue de Picasso, de Poème d'Éluard, les exercices de style de Queneau, des premiers exercices de style, Les leçons de choses de Michel Léris, le premier texte de Mouloudji. On oublie que j'ai été le premier éditeur de Mouloudji, qui s'appelle Le prix de camaraderie, un long texte de Jean-Paul Sartre, je peux même vous raconter si ça vous amuse, puisque Sartre a quand même été, Michel a été lié avec Sartre. J'attendais ce texte de Sartre, c'était dangereux de laisser ces textes-là trop longtemps sur le marbre chez les imprimeurs. Et en particulier, notre imprimeur, c'était Gros Radnez, qui a été arrêté, torturé et qui s'est suicidé pour ne pas parler. Donc j'étais furieux parce que j'avais retenu des pages pour un texte de Sartre et Sartre ne me le donnait pas. Et je vois Sartre au Flore et je l'engueule naturellement, lui disant quand on promet des choses, vous vous rendez compte, avec le papier on est limité, on ne peut pas faire n'importe quoi, vous m'avez promis tant de pages, je les attends. Alors il se trouvait que j'avais un garçon qui me servait de secrétaire à l'époque qui était Alexandre Astruc. Alexandre Astruc, sur les quais, avait trouvé un petit fascicule qui était le fascicule de la distribution de prix du lycée du Havre de 1931, dans lequel le discours des prix était prononcé par le professeur de philosophie, M. Jean-Paul Sartre. Alors il avait acheté ça pour un franc, il me l'avait donné, et je dis à Sartre, si vous ne me donnez pas le texte en toute urgence, je publie ça. Sartre me dit, faites pas la vache quand même, c'est pas possible, vous n'allez pas faire ça. Je lui dis, oh, pas question, et comment que je le ferai. Il me dit, non, j'ai bien quelque chose, mais vous ne le publieriez pas. Alors je pense que c'est pour des raisons politiques. Je lui dis, vous savez, au point où j'en suis, la Gestapo me cavale déjà après depuis un moment, je n'ai pas de grand risque à prendre, je le publierai. Il me dit, oh, non, c'est pas pour des raisons politiques, ce sont des poèmes. Alors je lui dis naturellement ce que vous auriez dit à ma place, pour avoir le pucelage poétique de M. Jean-Paul Sartre, je suis prêt à me prostituer. Et Sartre me dit, non, c'est pas possible, ils sont trop cons. Ce qui était vrai d'ailleurs. Et il s'est mis à table, il s'est installé sur un guéridon, et dans les 2 heures qui ont suivi, il m'a donné mes 10 pages sur Jules Renard. Mais l'histoire, et c'est pour ça que je vous la raconte, a une suite, parce que j'étais avec Michel Léris dans le même Flore 8 jours plus tard, et ça avait préoccupé Sartre, son histoire de poème. Il s'est levé, il s'est approché. Il ne se levait jamais, on allait à son guéridon. Hein. Il s'est approché de nous, de Michel, et il a dit à Michel, très très préoccupé, Michel, dites-moi, comment est-ce qu'on fait pour écrire un poème? Et je dois dire que Michel, qui n'était pas très bavard, a été quand même encore moins bavard que d'habitude. Là, il a été absolument stoppé sur place, ce qui n'a pas empêché son affection et son amitié pour Sartre.
Encore enfant, ce qui excitait le plus mon attente dans un opéra ou dans un drame, c'était la mort des ou du héros. Celle de Roméo et Juliette, celle de Cyrano. Savoir mourir était la pierre de touche du grand acteur. Aujourd'hui, je suis tout prêt à croire qu'il trouve là son heure de vérité. Quelque chose qui, toute proportion gardée, rappelle ce qu'est l'estocade pour le torero. Pas moyen de biaiser. Avec l'acteur qui ne sait pas mourir, le drame perd sa dignité, tout comme la corrida n'est plus que grotesque boucherie, s'il faut pour la conclure trop de prudents ou malencontreux coups d'épée. Dans l'un et l'autre cas, mort mal jouée ou mise à mort manquée, il semble qu'on soit frustré de l'essentiel, et peu importe alors que le reste ait été brillant. Tous ces jeux de scène, accents, passes de cap ou autres mouvements qui avaient enthousiasmé sont rejetés dans la nullité des choses profanes. L'on dirait d'une messe où le fait que la transsubstantiation ne s'est pas opérée deviendrait criant pour les fidèles. Que peu d'acteurs contemporains puissent affronter sans ridicule les grandes tueries élisabéthaines, peut-être la décadence du théâtre porte-t-elle là sa marque la plus évidente. Il ne répond plus à son but premier, jeter un pont de notre monde à l'autre monde, quand s'est perdu l'art de mourir.
La guerre aura eu pour effet de lui faire connaître 2 drames, Le premier, très tôt, c'est l'arrestation en 1941 des principaux acteurs de ce qui a été un des premiers réseaux de résistance en France, c'est le réseau du Musée de l'Homme, et où trois de ses camarades et collègues du musée de l'Homme seront arrêtés et fusillés en 1942, sauf pour Yvonne Audon, qui était arrêté, qui était bibliothécaire du musée d'ethnographie du Trocadéro, donc du musée de l'Homme, laquelle sera déportée. Et les deux autres, Anatole Levitsky et Boris Vildé, lequel Anatole Levitsky a participé au collège de sociologie, a fait deux conférences sur le chamanisme, seront fusillés en février 1942. Autre drame, tragédie, c'est l'arrestation de Deborah Lifshitz, qui était une de ses collègues participant à la mission Dakar Djibouti pour son itinéraire éthiopien en 1932, laquelle avait trouvé refuge dans l'ancien appartement de Michel Léris, qui était de rue Eugène Poubelle. Et lui ayant déménagé, comme je vous l'ai dit, au Quai des Grands Augustins, elle sera arrêtée là. Et ensuite, en tant que juive, elle sera évidemment et malheureusement déportée et périra à Auschwitz. Alors ça, ce sont deux drames. D'ailleurs, la langue secrète est dédiée à la mémoire de Deborah Lifshitz. Ce qui est intéressant, c'est dans son journal, c'est la libération de Paris qu'il décrit au jour le jour. Alors là, il y a une cinquantaine de pages qui sont assez fascinantes, puisqu'il en aura été à la fois acteur et spectateur. Acteur parce qu'il occupera le musée de l'Homme, simplement au niveau de l'occupation. Il n'est pas FFI, il est juste membre du Front National, qu'on appelait à l'époque le Front National, enfin, qui n'était pas du tout le même que celui qu'on connaît maintenant, comme vous pouvez bien vous en douter. Et donc ils occupent le musée de l'Homme, mais il décrit comme ça ce qu'il voit en tant que parisien parmi les autres, et notamment de son appartement du Quai des Grands Augustins, qui donnait juste, pas très loin en tout cas, en face sur la préfecture de police, laquelle, comme vous le savez, enfin, s'est barricadée très très tôt, et s'est mise en grève, et donc a permis d'une certaine façon l'insurrection de Paris au moment de sa libération en août 1944. Voilà.
Il était aux premières loges.
Ah oui, il était aux premières loges, oui.
Le 20 août 1944, entre autres véhicules qu'attaquent les FFI embusqués dans une bonne partie des immeubles, nous voyons une auto qui débouche du quai Saint-Michel escortée par une fusillade très drue. Sans dommage, elle franchit la place Saint-Michel puis s'engage dans le quai des Grands Augustins. À ce moment, le conducteur, ayant sans doute été touché, elle fait une embardée, monte sur le trottoir et s'écrase contre la devanture des éditions Perrin. Comme une grande croix rouge est peinte sur son toit, je suis surpris et choqué que les FFI aient tiré dessus. Rapidement, des hommes armés entourent le véhicule en feu. Ses occupants supplient. « Camarades, pitié !» Devant la portière de droite, leur seule issue, un jeune homme est posté, genoux en terre et revolver braqué pour empêcher les deux ou trois militaires allemands de descendre. Un débat s'ouvre entre les FFI. Les uns crient « qu'il cuise !» Les autres « achève-le, achève-le !» Bien que le côté tauromachique de la scène, exactement l'air mi-matador, mi-puntillero du jeune homme agenouillé avec son revolver me semble plein de grandeur et de beauté, je quitte horrifié la fenêtre et m'en vais dans la cuisine où, machinalement, je me lave les mains au robinet de l'évier. Mais dès que le sens de mon geste m'est apparu, le lavage rituel des mains tel celui de Pilate, je ferme le robinet et retourne à la fenêtre de la salle à manger. Le jeune homme achève au revolver un des Allemands, sorti pour fuir les flammes, et dont on voit le corps se tordre un instant sur le sol. Une accalmie, puis une série de fortes détonations fait prendre le large au petit groupe de combattants rassemblés autour de l'auto. Cette voiture à croix rouge était bourrée de grenades qui sont en train d'exploser. Transgression of the wild dominion.
Même quand on buvait un coup, et Dieu sait qu'on a réussi à en boire des bons, au lieu de le faire parler, ça l'enfonçait davantage dans son mutisme. Il devenait à ce moment-là d'une sorte de raideur catatonique, complètement fermé, enfermé sur lui-même. Il y a eu en particulier une picture considérable qui a beaucoup occupé le Landerneau à l'époque, que j'avais trouvé rue Vanneau, un bistrot où il y avait du vin, ce qui était chose rare, du vin sans ticket à volonté. En réalité, c'est un horrible pouce au crime, un truc à envoyer les gens à l'asile, enfin. Et on est allé dîner, il y avait Fresneau, Queneau, Michel et moi. Qu'est-ce qui s'est passé à partir d'un certain nombre de bouteilles? Je ne peux pas très bien vous le dire. Queneau s'est réveillé donc à 5-6 km de là, chez lui, le lendemain matin, tout habillé sur son lit, avec une bouteille vide dans chaque poche. Il n'a jamais su comment il était arrivé. Moi, j'avais supporté un peu mieux, et j'ai dû ramener, je ne dirais pas sur mon dos, parce que comme il était raide comme un piquet, je le portais plutôt comme on porte un truc à balai, comme ça, sous le bras. Et je l'ai porté de la rue Vanneau, donc ça fait une paille, jusqu'au quai des Grands Augustins, où je l'ai couché. Il y avait 14 personnes cachées, ou 10 ou 14 personnes cachées à ce moment-là dans l'appartement. Fresneau me cavalait après, rond comme 50 boudins. Le lendemain matin, je suis allé voir Michel. J'ai vu des draps d'où émergeait un regard, mais des yeux absolument exorbités, et une voix qui sortait de sous le drap qui disait « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il n'en savait rien du tout, mais ça a beaucoup défrayé la chronique. Enfin, il y a eu d'ailleurs un peu plus tard un étudiant allemand qui devait faire une thèse sur la poésie clandestine française. Les Allemands s'intéressent à ça, pas les Français, mais les Allemands. Et qui est venu me voir. Bon, je lui ai dit « Je vais vous faire voir les survivants. » Donc il est arrivé au dîner avec un grand calepin de papier qu'il a glissé sous la table en disant à la fin ma thèse est faite, je suis tranquille. Il s'apprêtait à prendre des notes et nous n'avons raconté pendant tout le dîner que des histoires de biture. Le type s'est dit bon, il faut que je fasse ma thèse après ça. Je me souviens et ça rejoint un petit peu cette sorte de d'oulipisme à l'avance, comme ça. Il était au collège de pataphysique, hein. Il était satrape au collège. Et je me souviens, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, on se rencontrait. Alors, vous savez, c'était les rencontres à Paris. Bonjour, comment vas-tu? C'est toujours affectueux. On ne doute pas de l'affection, mais à bientôt, on a toujours envie de se voir, puis on n'a jamais le temps. Et là, je ne sais pas contre quoi j'étais en rogne. Et il me voit en rang, il me dit « Qu'est-ce que tu t'en fais une tête ?» Je lui dis « Ouais, ça va pas, ouais, conneries humaines, ça me fatigue. » Et je lui dis je me sens devenir méchant. » Et là, il a dit quelque chose, c'est assez rare. Je pense pas que Michel ne donnait pas de conseils. Mais là, tout de même, affectueusement, il m'a dit « Il faut pas être méchant. Moi, je ne suis pas méchant. » Et il a ajouté, je me sens de plus en plus pataphysicien. Je crois qu'il n'y a de solution que les solutions imaginaires.
C'est en Hollande, donc, que j'ai franchi le seuil préliminaire, après lequel viendrait un autre seuil, que je ne franchirais celui-là qu'une fois devenu un adolescent, si ce n'est un jeune homme. Être ému par un tableau qu'aucune gloire ne magnifie, et qui ne doit son attrait à nul aspect historique ou anecdotique. Ce sont, je crois, des paysages de John Kint, autre peintre flamand, que je vis ainsi au hasard d'une promenade au musée du Louvre. Je serais très en peine de dater cette promenade et tout aussi bien d'en indiquer les circonstances. Ce dont je suis pourtant presque certain, c'est que devant ces tableaux ou aquarelles de John Kint, j'éprouvais pour la première fois quelque chose qui n'était ni le sentiment d'admiration un peu protocolaire que m'avait inspiré la ronde de nuit, costume et accessoires du genre grand opéra aidant, ni l'intérêt encore tout enfantin que j'avais eu pour l'élégiaque et coquette expression de l'amour maternel qu'offre le double portrait dans lequel Madame Vigée-Lebrun, qui peignit la reine Marie-Antoinette, s'est représentée serrant sa fille entre ses beaux bras qu'on présume très doux. Ni l'ébahissement devant d'imposantes compositions comme les Noces de Cana ou le Sacre de Napoléon. Ni l'émerveillement amusé que me procurait la verve romantique de Gustave Doré quand je feuilletais les ouvrages qu'il a illustrés, Roland Furieux, Don Quichotte, La Divine Comédie, Les Fables de La Fontaine, ou bien Le Capitaine Fracasse, qui se trouve être le premier livre proprement littéraire que j'ai lu et dont j'ai apprécié qu'il fût, comme on disait chez moi, bien écrit. Paysage que je me rappelle comme étiré dans le sens horizontal, à l'instar des longues plaines qu'il représentait, avec peut-être des moulins, des bateaux sur les eaux du fleuve ou de canal, des ciels aux nuages effilochés au-dessus de la terre jaune, peut-être aussi des arbres maigres. Les œuvres de John Keane, quel qu'ait pu être exactement leur contenu, avaient ouvert pour moi d'étonnantes trouées dans les murs solennels du musée. Cet état ambigu de tendresse et de tristesse passionnée auquel beaucoup plus tard mon engloutissement volontaire dans le coma provoqué par le phénobarbital répondrait, comme s'il en eût été l'achèvement au sens complet du terme. Il me semble en avoir ressenti une annonce très lointaine devant ces paysages dont même aujourd'hui je ne suis pas capable de dire avec précision sur quoi se fondait leur pouvoir insidieux. À regarder les touches légères de couleurs avec lesquels cet homme au nom de Jonc ou de Jonquille, poussant Dru dans la froidure du Nord, a évoqué des sites indubitablement localisés, mais dont elle nie plutôt qu'elle ne pose des limites. Je me sentais comblé, mais en même temps comme aspiré hors de moi-même et projeté vers un horizon indéfiniment reculé. Mélange bizarre de détresse et d'exultation, analogue à ce que depuis m'ont paru sécréter les produits du génie moderne, qui, sur un plan bien distinct de celui de la peinture pure, me touche au plus près. Mettons, sans essayer de faire un florilège, les saltimbanques de Picasso et son rideau pour le ballet parade, les toiles cubistes en échafaudage gris et beige syncopés comme des ragtime pour troupes de girls anglaises, certaines séquences de Max Jacob et de quelques autres poètes où c'est la poésie qui devient thème de poésie, le conte L'enfant polaire de mon ami Limbourg, natif du Havre, et la musique étrangement dénudée de Satie, née, comme on sait, à Honfleur. En termes mieux pesés, ce que j'aime, en dehors de tout jugement intellectuel ou esthétique, et qui, en des instants certes mélancoliques, mais dont je doute que j'en connaisse de meilleurs, exprime avec une mélodieuse simplicité ce qui, le temps au moins que dure cet enchantement, me semble être ma vérité, inintelligible dans toute autre traduction.